mais aussi que ça puisse être chaque jour le cas, chaque jour être avec lui. Nous venons dans ta présence. Ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je suis frotté par chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je souffre de tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux. De même, je soupire après toi, ô mon Dieu.
J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir me présenter devant Dieu?
Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, « Ton Dieu, où est-il donc ?»«
Ton Dieu, où est-il donc ?»«
Ton Dieu, où est-il donc ?»
Avec quelle émotion je me souviens du temps
où, avec le cortège, je m'avançais, en marchant à sa tête vers le temple de Dieu.
Au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête.
Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue?
Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu?
Et gémis-tu sur moi?
Et gémis-tu sur moi?
Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur.
Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi.
Que le jour l'Éternel me montre son amour.
Je passerai la nuit à chanter ses louanges, et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre.
Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher.
Pourquoi m'ignores-tu ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi ?
Mes membres sont meurtris. Mes ennemis m'insultent. Sans cesse, ils me demandent : Ton Dieu, où est-il donc ?
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 Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ?
Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour. C'est le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux, à suivre ton chemin.
Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Bonjour. Récemment, sur Facebook, sans doute vous n'avez pas entendu parler de ce phénomène, mais il existe quelque chose qui s'appelle Facebook. Et dessus, il y avait une espèce de théâtre. Deux jeunes dames se sont rencontrées. Et en réalité, il y avait, on va l'appeler Céline, comme ça. Il y avait Céline de janvier 2020 qui a rencontré Céline de mai 2020. Et la Céline du mai 2020 a commencé à discuter avec elle-même de 5 mois auparavant. Et Céline de mai 2020 a dit, « Ça serait bien que tu achètes un chien. » L'autre a dit, ben, « Non, je n'ai pas le temps, je travaille autant, et puis je voyage beaucoup. À qui est-ce que je vais donner ce chien pendant mes voyages ?» L'autre, du mois de mai, a dit, « T'inquiète pas, tu ne vas pas voyager. » Et puis, ça serait très bien si tu achètes des actions en Zoom. Ça serait utile. Mais pourquoi Zoom ? Ce truc, personne n'en sait rien. Et puis, la conversation a continué comme ça. Et sans doute, il y a un an, qui est-ce qui aurait pu croire que si quelqu'un venait nous dire que l'année prochaine, vous n'allez pas pouvoir aller à l'église pendant un quart de l'année, ou même encore plus. Vous n'allez pas pouvoir chanter en assemblée. Et même encore après que c'est terminé, cela ne sera pas tout à fait facile. Je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement de la plupart de cette année. Sans doute tout le monde l'a vécu un peu différemment. Pour certains, c'était très malheureux. Pour certains, ils ont perdu des proches. J'ai un ami qui a perdu ses 2 parents pendant ce temps. Pour beaucoup d'autres, c'était plutôt un désagrément qu'une souffrance. Il y a une semaine, on a eu une rencontre dans le canton de Vaud, au sein du forum de louanges dont je fais partie. Et on a regardé le titre de la journée, c'était « Louer Dieu dans l'adversité ». Peut-être ce qu'on va aborder ce matin, vous n'avez pas attendu à entendre, peut-être c'est le début d'une réflexion que vous allez mener plus loin. Je vous invite à faire un voyage avec moi, peut-être sur un terrain nouveau, inconnu. L'adversité, c'est quoi l'adversité? C'est lorsque le courant de la vie change, lorsque les repères sont secoués de manière forte, abrupte, lorsqu'on subit un grand coup qu'on n'attendait pas. On n'a jamais entendu quelqu'un dire « j'ai eu une année la plus facile et j'ai appris tant de choses ». Non, les plus belles leçons que moi j'ai apprises étaient à des moments peut-être les plus difficiles. C'est à de tels moments qu'on apprend rapidement ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Ce qui vaut la peine de dire et ce qui ne la vaut pas. Et donc ce thème qu'on va aborder ce matin, c'est ce qu'on a abordé ensemble. J'étais l'orateur, donc je me suis permis aussi de partager le même contenu avec vous ce matin. Un théologien la semaine dernière, lorsqu'on lui a posé la question sur ce temps un peu plus difficile, il a dit, lorsqu'on regarde l'Écriture, on constate que la vie entre le déjà et le pas encore n'a pas été créée pour qu'on soit confortable, mais pour qu'on soit transformé. Parfois, la souffrance est très lourde, beaucoup plus que simplement des désagréments. Au milieu d'une pandémie mondiale, nous reconnaissons peut-être davantage la nécessité que le Christ revienne. La vie en quarantaine a mis en évidence les complexités de la douleur et de la souffrance dans le monde. Nous ressentons la douleur et la souffrance qui existent dans le monde et pourtant nous savons que le Christ est Seigneur. Nous célébrons sa résurrection. mais nous ne pouvons pas oublier la douleur et la souffrance du Christ ressuscité, ni contourner la douleur de ce monde. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu parler d'un problème d'injustice, la première fois que vous avez vu des photos de victimes du trafficking humain, ou entendu des statistiques sur la pauvreté, le placement en famille d'accueil ou l'esclavage? Quelles émotions ont été suscitées? Des émotions peut-être de colère, de peur, étaient-elles présentes? La colère que le monde soit peut-être pire que vous ne le pensiez, que l'ennemi soit plus rusé que vous ne le pensiez, ou que la bonté de Dieu vous semble radicalement éloignée? À qui avez-vous dirigé ces émotions? Vos prières incluent-elles cette colère et cette crainte du Seigneur? Vous êtes-vous senti habileté et libre de parler authentiquement à Dieu de la grave dépravation et du mal accablant qui règne dans le monde? Il y a des réactions différentes à la souffrance. Chanter des chants positifs de la grandeur de notre Dieu, c'est une manière de faire. Mais la souffrance n'est jamais neutre. On y apporte notre point de vue de Dieu, notre perspective de Dieu et de nous-mêmes qui influence, qui définit cette souffrance. Une autre réaction, c'est de nier la souffrance, nier la réalité. Mais dans l'Écriture, Dieu a pourvu un langage de souffrance qui se trouve dans les psaumes et dans les psaumes de lamentation. La lamentation est beaucoup plus large que le sentiment du regret pour le péché. Cela englobe la douleur, la souffrance, la confusion, la colère contre l'injustice, la trahison, le désespoir. La lamentation, c'est un cri qui dit que les circonstances ne correspondent pas au caractère et au dessein de Dieu. C'est un cri qu'on attend, qui attend une réponse de Dieu et qui mène à l'espoir, à la confiance et à la joie, plutôt qu'au désespoir. C'est un ingrédient essentiel de la foi honnête. C'est le sentiment profond qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec soi-même, soit avec le monde. On a compté entre 65 et 67 psaumes de lamentation dans notre livre de psaumes. Plus nombreux que les psaumes de louange. Brueggemann, un certain théologien, les appelle les psaumes de désorientation, ayant parlé des psaumes d'orientation, tout va bien. Et puis après, les psaumes de réorientation. Et donc, ces psaumes de désorientation, il y a beaucoup de psaumes de lamentation individuelle, et puis aussi des psaumes de lamentation commune. Michael Card, qui est chanteur, compositeur, aussi théologien, a écrit « La lamentation n'est pas de la psycho, de vider son sac, il s'agit de la vraie adoration, offrir à Dieu en tant que sacrifice ta fragilité et ta douleur. » Michael Card dit lui-même qu'il s'est intéressé à la lamentation lorsqu'il a vu beaucoup d'amis souffrir par des divorces, mais aussi après le 11 septembre 2001. Il a dit « Nous avons été créés pour vivre avec un Dieu dans un jardin, pourtant, chaque matin, nous nous réveillons dans le désert d'un monde déchu. » Il écrit plusieurs œuvres, dont un qui s'appelle en anglais « Lament, a sacred sorrow, reaching out to God in the lost language of lament. » Le chagrin sacré, tendre la main à Dieu dans la langue perdue de la lamentation. La lamentation nous lance le défi que peut-être je n'ai pas toutes les réponses, que je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu, que j'ai besoin d'apprendre les réalités de l'expérience d'autres personnes qui ont souffert autrement que moi, qui ont vécu un autre narratif, une autre histoire que moi. Par la lamentation, nous affirmons que le Seigneur règne, même dans les circonstances qui pourraient suggérer autrement. Nous affirmons notre confiance dans sa capacité de transformer ce monde. À son cœur, la lamentation est une expression de confiance dans le caractère, la puissance et l'action antérieure de Dieu, et une expression de confiance qui regarde au-delà de nos circonstances actuelles, à ce qui sera, à ce qui est la réalité derrière la réalité. Mais même si la lamentation est une des formes la plus communes des psaumes, ce n'est pas quelque chose que nous acceptons facilement comme partie de notre expérience de culte. Peut-être vous avez déjà été secoué par ces psaumes qu'on vient de faire autrement. Dans nos milieux de louanges, on a mis l'accent sur le chant à Dieu, avec peut-être moins de place pour les chants d'encouragement les uns aux autres. Il y a aussi une tension entre ce que nous ressentons et ce que nous croyons être vrai. Un théologien coréen américain a fait une étude dans les recueils de chants chez les uns et chez les autres aux États-Unis et a constaté que chez les baptistes et les presbytériens, 85% étaient des chants de victoire et de triomphe. Donc peut-être 15% qui pourraient être considérés comme des cris à Dieu dans ce contexte de lamentation. Ensuite, il a mené la même enquête sur la liste de fin d'année de CCLI. CCLI, c'est un peu les droits d'auteur mondiaux. Et ils publient chaque année la liste des top 100 chants les plus chantés mondialement. Restant assez généreux, il a trouvé entre 5 et 10 chants qui pourraient être considérés comme des chants de lamentation, des cris vers Dieu pour intervenir. On préfère passer du récit de la souffrance pour les histoires de victoire et des triomphes. Mais que se passe-t-il le dimanche matin lors du culte après qu'un jeune enfant de votre congrégation ait été diagnostiqué comme étant en phase terminale? Ou lorsque le combat prolongé d'un adolescent contre un trouble alimentaire menace de déchirer une famille? Ou lorsqu'il est démontré qu'un membre de la communauté, par ailleurs intègre, est un auteur impénitent de violences domestiques? Ou lorsqu'un tremblement de terre, une inondation ou une tournade fait des ravages dans la vie d'autres fidèles, dans la rue ou à l'autre bout du continent ou sur notre continent? Ou lorsqu'un barrage d'attentats suicides menace de défaire la paix au Moyen-Orient? La tristesse, le deuil, la perte, le rejet, la trahison font malheureusement partie intégrante de l'expérience humaine. Un certain théologien, Sandlin, a dit « Il n'y a pas de manière d'adorer en esprit et en vérité sans la lamentation. » Son absence donne l'impression que l'Église est uniquement pour les gens pour qui tout va bien. Il a dit que si nos témoignages incluent uniquement ceux qui ont connu la victoire ici et maintenant, les gens qui souffrent pourraient croire que leur voix n'est pas la bienvenue. Une Église qui fait de la place pour la lamentation ouvre ses portes à tous. Ça devient un lieu sûr, un abri, un havre pour ceux qui passent par des dépressions, par des situations de la vie précaires. Alors, c'est quoi la lamentation? C'est tout d'abord crier à Dieu de manière honnête. Pas facile. Cela pourrait sembler manquer de respect envers Dieu, de lui dire qu'on se sent abandonné, alors qu'on pourrait citer des versets qui disent qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais la vérité, c'est qu'il connaît les secrets de notre cœur. Et lorsqu'on ne trouve pas de mots, lorsque notre chant est parfois perdu ou silencieux, on peut s'appuyer sur les lamentations profondes des Écritures. Dans les psaumes, on constate que lorsqu'on apporte nos plaintes envers Dieu, nos circonstances ne changeront peut-être pas, mais notre expérience de ces circonstances change. Parfois, Dieu ne nous sort pas de notre douleur, mais il nous donne la force pour continuer à prendre juste un pas après un autre. Et dans ces silences, on trouve qu'il nous soutient et que finalement, on n'est pas seul. Pour citer Michael Card encore une fois, il a dit par les psaumes de lamentation, plus que n'importe où ailleurs dans les Écritures, David révèle un Dieu qui se sert de tout, surtout de la douleur. S'approprier les psaumes de lamentation dans la Bible, ce n'est pas simplement enlever quelques métaphores de leur contexte original. Non, c'est oser prendre la forme du psaume et comme un soliste de jazz qui embellit le thème musical qu'on improvise dans le contexte de notre tragédie particulière. La structure d'un psaume de lamentation commence par invoquer Dieu. Reconnaître qu'en temps de crise, nous nous approchons d'un Dieu personnel et accessible, dans une tension, certes, peut-être avec un sens profond, presque de contradiction qu'on voit clairement dans le psaume 22. « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Quoi ça sert de parler avec un Dieu qui t'a déjà abandonné, qui semble être loin ?» Notre lamentation s'adresse à ce Dieu personnel avec toute une panoplie d'images utilisées dans les psaumes. On prie à Yahweh, notre rocher, notre forteresse, notre refuge, l'oiseau avec les ailes qui nous entoure. Des métaphores se servent des outils que Dieu nous a donnés dans sa parole et nous aident à concevoir un Dieu qui a fait des choses dans le passé, qui veut les faire encore. Ensuite, notre prière continue avec une lamentation courageuse pour apporter nos questions théologiques les plus intenses dans le sanctuaire. À la place de « on se demande peut-être pourquoi cela nous arrive », on prend les paroles bibliques et on est pour dire « jusqu'à quand ?»« Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» Une lamentation nomme spécifiquement une situation ou circonstance qui est douloureuse, qui est injuste. Autrement dit, une circonstance qui ne s'aligne pas avec le caractère de Dieu et ne fait pas de sens au royaume de Dieu. Le ton émotionnel de la plainte varie entre la tristesse, le remords, la fatigue, la colère, la désillusion, le doute. Oui, l'adoration honnête exprime le doute légitime en même temps que l'assurance. Les psaumes nous enseignent que le doute peut être exprimé comme un acte de foi, un cri pour l'intervention de Dieu, mais également des plaintes sur les injustices et sur la présence du mal. Beaucoup de psaumes nous enseignent la valeur de la prière spontanée, mais aussi de la forme. La prière spontanée, non pas comme une série de clichés habituels, mais avec une forme qui permet l'expression de la peur, de la colère, peut-être de la culpabilité. Comme chaque soliste de jazz sait que sans structure, on rate la possibilité d'une vraie spontanéité. Cette forme donne l'intégrité à notre louange. Cette stratégie pourvoit une manière pour les individus qui se sentent emprisonnés dans leur injustice de trouver une voie dans leur communauté. Combien de personnes ne reviennent pas à l'église lorsqu'ils passent par une dépression parce qu'ils n'ont pas envie de revenir, ils pensent qu'ils doivent passer un test de fitness à la porte pour pouvoir être accepté. La lamentation biblique vient sous beaucoup de formes différentes, parfois individuelles, parfois communautaires. La prière porte une pétition spécifique, « Guéris-nous, libère-nous, sauve-nous ». La lamentation nous amène toujours vers une demande. Elle attend une réponse de la part de Dieu. Elle s'attend à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans la situation. Souvent, cette pétition semble être une exigence, le cri essentiel du psalmiste. Dieu fait quelque chose, Dieu intervient. Finalement, notre prière termine avec les expressions d'espérance, de confiance. La lamentation inclut normalement une confession de confiance, parfois tissée dans la plainte ou la pétition, ou dans la conclusion avec parfois une parole de louange. De telles confessions de confiance sont un contraste marqué du reste du psaume. Par exemple, dans le psaume 57, versets 6 et 7, elle divise le psaume en deux, lamentation, louange. « Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. » Mais pour comprendre la lamentation biblique, nous devons accepter que cette expression de confiance, avec sa louange et sa joie, fait partie intégrale d'un psaume de lamentation. Certains suggèrent que louer Dieu par la lamentation, c'est se permettre de passer le jour du samedi saint. Nous, on veut passer rapidement au dimanche de Pâques parce qu'on sait qu'il y a la résurrection. Mais vivre le samedi saint, c'est faire une pause. Un moment de Sela, c'est de se permettre les silences, mais aussi les questions. La lamentation est une prière eschatologique. Elle regarde toujours l'avenir. Peut-être il ne sera pas possible de chanter dans les temps de crise profonde, mais la communauté anticipe la louange, aspire la résolution de la crise. La louange est donc l'issue attendue de la crise, du désespoir. C'est notre défi dans la louange d'accepter à porter le cri de la lamentation pour nos congrégations, nos communautés, pour un monde qui n'est pas aligné avec la personne ou le but de Dieu. La lamentation nous amène proche de Dieu alors que nous sommes tentés, dans les circonstances difficiles, à nous détourner de lui. La lamentation nous permet d'avancer avec persévérance à appeler pour la justice. C'est une manière de rester profondément lié au Dieu qui nous aime, qui aime la justice, même lorsque l'injustice nous pousse à poser à Dieu les questions les plus difficiles. Hier, il y avait un culte de reconnaissance pour la vie d'un jeune pasteur à Paris, tragiquement mort il y a un mois dans un accident d'escalade à Chamonix. Pas simplement un pasteur, mais un implanteur d'église, un coach pastoral. C'est le vice-président du CNEF, Comité national des évangéliques de France. On peut avoir beaucoup de questions. Pourquoi, Seigneur, quelqu'un si clé dans ton royaume, pourquoi tu l'as pris? Pourquoi c'était un accident comme ça? Pourquoi à cet âge? Pourquoi pour cette famille, pour ses collègues? Avoir la liberté de se lamenter devant le Seigneur est une chose puissante. En tant que gens du livre, nous connaissons la fin de l'histoire. C'est pourquoi nous nous lamentons. Mais nous lamentons avec espérance. C'est maintenant le moment pour l'Église de se joindre à ceux qui souffrent dans les lamentations. Comme a dit Paul, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Même si le monde est brisé, pouvons-nous nous engager à être des gens qui œuvrent pour la justice et dont les prières reflètent les cris des victimes en même temps qu'un vœu de louange puissant? Nous avons confiance en Dieu pour apporter la justice et la restauration à ce monde blessé. Je veux terminer avec un témoignage d'une Canadienne. Ensuite, je vais lire un psaume et puis on va écouter tout de suite Eric, si tu peux, un chant. Une Canadienne qui est partie en mission. Elle a dit, j'avais passé 2 mois riches d'expérience en Éthiopie, enregistrer la musique somalienne chrétienne pour une émission. Pendant mon séjour, j'ai reçu beaucoup de paroles prophétiques que les portes s'ouvriront pour moi lors de mon retour au Canada. Mais après quelques mois de retour, je me trouvais au chômage, résidente dans le sous-sol chez les parents d'un ami. Ma maison familiale avait été détruite par le feu. Un ami s'était suicidé. Ce n'étaient pas les portes ouvertes que je voulais. J'avais été plutôt désillusionné par Dieu, sous la charge lourde de mon deuil, et j'ai passé la plupart de mes jours soit à chercher sans succès un emploi, soit à dormir. Pendant ce temps, j'étais responsable de la louange à mon église et ma dépression s'est détériorée les semaines où j'avais la responsabilité de la louange. À l'époque, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais lorsque finalement les choses commençaient à aller un peu mieux, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas louer Dieu le dimanche matin, en tout cas pas comme j'étais. Mais si beaucoup d'individus et familles m'ont soutenu pendant ce temps, je me sentais entièrement exclu lors du rassemblement de l'Église pour le culte. Au milieu de ma dépression, je ne me sentais pas capable de venir tel que j'étais, dans un contexte où ce n'était que la louange qui semblait être accepté ou acceptable. Finalement, lorsque j'allais suffisamment mieux pour parler de mes pensées avec le pasteur et d'autres membres de la congrégation, j'ai commencé à me rendre compte que peut-être la difficulté était moins par rapport à moi et plus par rapport à la manière dont je conduisais la louange. C'est l'un des buts du rassemblement pour le culte de l'Église et d'édifier. Certainement, il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas avec les cultes qui crée des sentiments de séparation de Dieu et du peuple de Dieu. Cette conviction s'intensifiait en parlant avec d'autres personnes qui ressentaient la même chose. Pendant ma dépression, j'avais l'impression que les seules écritures que je pouvais lire, c'était des psaumes, et particulièrement les psaumes de lamentation. Il me semblait bien alors de commencer à les inclure dans les cultes de l'Église, les Écritures qui m'avaient permis de sentir inclus dans l'histoire de Dieu, en plein milieu de ma dépression. J'étais surprise par la réponse d'autres personnes. J'ai commencé à écouter des autres qui se sentaient obligés de laisser quelque chose d'eux-mêmes à la porte s'ils allaient pouvoir louer Dieu. Ces individus commençaient pas simplement à sentir inclus dans la louange de l'Église, mais ils ont également découvert une nouvelle capacité pour la louange. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis, des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. J'aimerais qu'on écoute un chant qui est simplement les paroles, je viens de les lire, ça va être en anglais. Après, on va avoir un temps de silence. Et après, Joël reviendra. Un temps de prière.
nous vous proposons de poursuivre ce temps par un temps de prière communautaire. Si vous voulez exprimer, que ce soit une lamentation ou une parole de confiance, un verset, que vous puissiez le faire librement, dans votre cœur, à haute voix. Et je terminerai ce temps par une prière. Dieu puissant, tu es au-dessus de toute chose, tu es au-delà de ce que nous pouvons concevoir, et pourtant, Dieu notre Père, tu es amour et grâce, et tu te révèles à nous. Tu t'es donné, toi le Fils, en parcourant les mêmes chemins que nous, en partageant le même pain et nos souffrances, jusqu'à en mourir. Et tu souffles sur ta création, toi, Esprit Saint, Esprit de vie. Tu nous révèles le Père, tu nous révèles le Fils ressuscité. et tu nous remplis de ta présence et de tes bontés. Ce matin, nous nous sommes présentés devant toi en l'état, tel que nous sommes, et nous t'appelons notre Dieu. Quel que soit notre état, merci, parce que tu nous rejoins et tu nous accompagnes sur notre chemin. Nous sommes tes témoins, alors que nous puissions te louer, t'adorer, tous les jours, quelles que soient les circonstances. Amen. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais que je sois, et pour moi tu m'as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir pour l'éternité, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie, le bonheur, sont dans tes parvis mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
On termine le culte avec encore les annonces. Joanne, merci.
Bonjour à chacun. Alors, pour les annonces cette semaine et les semaines qui viennent, jeudi, la rencontre du Conseil à 20h. Dimanche prochain, pour les potes du dimanche, il y a la sortie. Et puis, c'est sur inscription. Donc, il y a un mail qui a été envoyé aux parents. Ceux qui n'ont peut-être pas de mail ou n'ont pas pu consulter, vous pouvez venir vers moi à la fin du culte. Donc, c'est dimanche prochain. Et ça sera la ferme de Raymond et Denise. Ensuite, vendredi 2 octobre, le colloque à 20h15 ici à l'église. Et puis, deux dates, 30, 31 octobre et 13 et 14 novembre, un cours. Donc, c'est sûr, c'est le conseil qui a initié ce cours. C'est un cours qui est donné par Porte Ouverte. On en a entendu parler lors des rencontres générales l'année passée à la FRE, qui est un cours qui nous semblait intéressant de pouvoir partager avec l'Église ici et aussi avec la régionale à Genève. Ce cours, Résister d'une foi ferme, fait un lien avec l'Église et la persécution, qui nous semblait bien d'avoir des outils, de nous équiper, soit personnellement, soit en Église, par rapport à une persécution qu'on croit souvent au-delà de nos frontières, mais qui peut être beaucoup plus proche et sournoise, même dans nos contrées et dans des pays dits libres. À ce sujet, le Conseil a pris la décision de favoriser pour ce cours un soutien pour les cours, c'est-à-dire que pour les étudiants ou la deuxième personne d'une famille, c'est d'offrir 50% de subventionner de l'ordre de 50%. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et si vraiment il y avait d'autres problèmes financiers, d'en venir parler à l'équipe pastorale ou au conseil. Et puis encore un dernier point, je ne sais pas si les personnes de l'accueil ce matin sont toutes dans la salle. Qui était à l'accueil ce matin? Clémentine et puis oui, Thierry. Voilà. Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui veut venir devant? J'ai juste quelques questions à poser. Je vous prends un peu de cours. Hein. Clémentine, allez, viens. Non, ce n'est pas des questions compliquées. Bon, déjà, c'est un grand merci pour ces personnes qui font l'accueil, parce que c'est un travail un peu spécial avec ces réglementations. Donc, c'est déjà dire merci à toutes les personnes qui se sont investies et qui s'investissent encore aujourd'hui. J'aimerais juste qu'on les applaudisse. Et puis j'avais juste des questions, c'est en quoi consiste ce travail? Viens.
Moi, c'est la première fois que je le fais et ce qu'on m'a dit de faire, c'est faire attention que les gens s'inscrivent, se désinfectent les mains et portent le masque. C'est tout ce que j'ai reçu comme consigne. Et tout le monde a bien fait, même avant que je le dise.
Ok. Merci. Donc, ce n'est pas très compliqué. Pas du tout. Ok. Très bien. Alors, ça me permet. Alors, merci beaucoup. Ça me permet de passer une annonce. On recherche absolument quelqu'un, une personne. Il y a déjà deux inscrits pour la semaine prochaine. Une personne. Merci beaucoup, Mélodie. Merci. Dernier point pour les finances. Donc, il y a toujours à la sortie la possibilité de mettre soit dans le panier, dans la petite boîte, soit via Twint ou encore par un versement sur le CCP. On remercie pour la générosité de toute l'Église qui nous permet de traverser cette période sanitaire avec sérénité. Merci à chacun.
Juste avant de faire la bénédiction, juste une dernière annonce. La chorale que j'ai commencée, on l'a commencé ici, ensuite d'aller à la chapelle pendant l'année scolaire dernière, recommence cette semaine, donc jeudi. La plupart des gens qui viennent, c'est en dehors de l'église, mais il y a quelques personnes aussi qui font partie de l'église qui viennent. Donc si ça vous intéresse, merci de venir me parler. Je peux aussi vous donner un lien d'un chant sur YouTube qu'on a fait au mois de juin, si ça vous intéresse. C'est un chant très intéressant. Donc un chant irlandais qui était chanté en anglais et en gaélique, que je ne parle pas du tout. Voilà. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.